La vraie vie des Français n'est pas dans les grandes théories ou les moyennes statistiques. Les principaux mouvements sociaux de ces dernières années n'ont ainsi guère été éclairés par les travaux sur les structures globales de la société et les fractures territoriales qui avaient retenu l'attention et nourri les best-sellers de la période précédente. La vraie vie des Français n'a pas davantage été racontée par les sondages. Ceux-ci ont certes bien documenté la réorganisation des clivages politiques avec la montée en puissance des populismes et l'instauration d'un climat de défiance généralisée, mais ils n'ont pas déchiffré la boîte noire des attentes, des colères et des peurs qui les fondaient. Nous avons la chance ce soir d'être avec Pierre Rosanvallon, auteur d'un livre important publié l'année dernière intitulé « Les épreuves de la vie » sous-titre « Comprendre autrement les Français ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec le regretté Arnaud « Je veux vivre ».
Je veux vivre dans un monde sans jalousie, sans amant, et où les pessimistes sont contents. Je veux vivre dans un monde sans papier, et où mon foie arrête pleurer. Je veux vivre dans un monde sans pilule, où les riches et les pauvres n'existent plus. Je veux vivre dans un monde où le chien embrasse les chats et où ils dansent une rumba. Je veux vivre dans un monde où les malheureux sont heureux. Je veux vivre dans un monde où Dieu il est amoureux. Je veux vivre dans un monde sans chichi et où les cons font pas de bruit. Je veux voler très haut, libre comme un poisson dans l'eau. Et là, ma bouche, pas de mots. Je veux vivre dans un monde sans cholestérol, avec une overdose de rock and roll. Chercher la beauté, chercher la vérité.
Dans quel monde voulez-vous vivre? J'ai pas dit dans quel monde vous vivez. Dans quel monde voulez-vous vivre, Pierre Rosanvallon, pour reprendre le titre de cette magnifique chanson?
Si je veux définir le monde dans lequel je veux vivre, ce sont des mots très simples que l'on peut employer. C'est un mot dans lequel il y a un sens véritable de la vie commune. C'est un mot dans lequel on peut faire société, tout simplement. Mais faire société veut dire qu'il n'y a pas de barrière, qu'il n'y a pas de discrimination, qu'on peut parler le même langage. Et on voit qu'on est loin de le faire, c'est-à-dire qu'on est dans des sociétés très divisées. Et ces sociétés sont très divisées pour deux raisons. Elles sont divisées pour des raisons que l'on peut dire économiques, c'est que selon les revenus des uns et des autres, ou les niveaux de fortune, on vit sur des planètes différentes. Donc on est économiquement et socialement divisé. Mais on est aussi divisé parce que les conceptions que l'on a de faire société commune sont différentes aussi. Et autant on peut trouver des moyens a priori simples pour réduire les écarts économiques, on peut dire qu'une redistribution par l'impôt, par exemple, peut être mise en place, quelle que soit la nature de cet impôt, alors qu'effectivement, il faut beaucoup plus de discussions pour savoir quel monde commun on veut construire. Et ce monde commun, ça peut être une communauté qui est fondée, ce qui est le cas dans un certain nombre de pays aujourd'hui, sur un nationalisme d'exclusion. Ou ça peut être une communauté, au contraire, fondée sur la délibération du commun, et non pas l'évidence des identités. Donc, derrière ce terme simple, dans quelle société on veut vivre, on voit qu'en fait, il y a la perspective d'un débat permanent. C'est quelque chose qui ne sera jamais un modèle que l'on va réaliser. C'est un travail permanent à recommencer, parce que les inégalités, certaines procèdent de mécanismes économiques qui ne sont pas admissibles, d'autres qui sont plus tolérés. Et donc, il y a toujours une distinction à faire entre l'admissible et l'insupportable. De la même façon, il y a toujours une discussion permanente à faire sur ce qui est commun, ce qui nous éloigne les uns des autres et ce qui peut nous rapprocher. Il y a aussi des façons vicieuses de faire société. Et il y a des, on le voit bien aujourd'hui dans de multiples pays du monde, où faire société veut dire exclure des autres. Quand on ouvre nos journaux et que l'on regarde par exemple les événements récents en Inde, eh bien on voit qu'en Inde, il y a un nationalisme d'exclusion, et c'est une façon de faire du commun qui est terrible. Quand on regarde ce qui se passe en Russie, eh bien c'est un nationalisme d'agression, donc c'est une communauté d'agression qui peut se mettre en place. Et ce travail permanent, on pourrait dire que c'est la définition même de la démocratie. La démocratie, c'est le régime dans lequel on ne cesse pas de s'interroger sur ce que l'on fait ensemble et sur ce que l'on doit faire pour faire une société plus rapprochée.
Dans quel monde vivez-vous, Pierre Rosanvallon, au lendemain du second tour, donc des élections présidentielles aujourd'hui ? Soulagé, content, heureux ?
Oui, je peux dire que comme un certain nombre de personnes, peut-être assez nombreuses je pense, je suis soulagé de voir que l'extrême droite, on avait pensé il y a un mois qu'il y avait une possibilité que cette extrême droite tout de même arrive au pouvoir.
Et donc vous l'avez pensé aussi.
Bien sûr, je l'ai pensé aussi parce qu'il y a tout de même des sondages qui ont montré à un certain moment que, avec la marge d'erreur, quand on disait que Macron pouvait avoir 51% et Marine Le Pen 49%, avec la marge d'erreur, la victoire de Marine Le Pen était tout à fait possible. Donc il y a ce type de soulagement. Mais je veux dire, c'est un lâche soulagement si on en reste là. Donc il ne faut pas en rester à cette espèce de soulagement, on pourrait dire, arithmétique. Et effectivement, à ce moment-là, se pose une autre question. On voit qu'il y a une sorte de désarroi généralisé face à ce résultat. Bien sûr, à la fois ce lâche soulagement, si je puis dire, et soulagement réel, pas simplement lâche. Mon expression n'est pas la bonne, mais en même temps un peu un désarroi. Et ce désarroi, il tient à une chose très simple. Il a une racine mécanique. C'est le fait que, par définition, le vote, l'élection, simplifie les choses. L'élection, au premier tour, on peut dire qu'il y a une douzaine de candidats, pluralité d'expression. Mais au deuxième, et même déjà, on a vu que cette pluralité d'expression, elle était vécue comme problématique, puisque cette pluralité d'expression, elle menaçait de ne pas représenter au second tour un certain nombre de sensibilités. Donc, en même temps, il y a une pluralité, mais tout de suite, l'idée de vote utile, qui est une simplification. L'idée de simplification, elle est venue dès le premier tour. Et puis, la nature même du vote, c'est de simplifier. C'est de tout ramener entre choix entre A et B. Et d'un certain point de vue, il y a ce paradoxe dans une élection. C'est que l'élection, elle met un point final au débat. L'élection, elle tranche. C'est une définition de la démocratie. C'est donner aux citoyens le pouvoir du dernier mot. C'est-à-dire qu'après, on ne discutera plus. Il y a quelqu'un qui était élu et il est légitime dans sa fonction. Mais en même temps qu'il y a cette simplification, ce pouvoir du dernier mot, il y a quelque chose de problématique qui commence. Donc l'élection, il y a à la fois ça, un mécanisme de simplification nécessaire des situations, et puis d'autre part, l'entrée dans un univers qui est d'autant plus problématique, d'autant plus ouvert aujourd'hui, et bien qu'on ne vit plus à l'âge des partis bien structurés avec des idéologies qui étaient comme des grands boulevards dans lesquels on pouvait se promener tranquillement d'un point de départ à un point d'arrivée, la fin d'un mandat.
C'est-à-dire que l'élection, selon vous, devrait être le début d'une discussion avec le peuple. Or, c'est une clôture institutionnelle et dans un de vos ouvrages précédents, puisque vous êtes un grand spécialiste de l'histoire de la démocratie, vous faites remarquer qu'en France, mais aussi comme aux États-Unis, le suffrage universel est une conquête tardive du processus révolutionnaire démocratique. Faudrait-il revenir sur ce fameux moment décisif, entre guillemets, de notre démocratie, qu'est l'élection au suffrage universel du président de la République ?
Je ne pense pas, parce que cette élection, elle est le symbole, je dirais, d'une souveraineté commune. Elle est le symbole de la souveraineté du peuple. Alors quand il y a un certain nombre de pays dans lesquels l'exécutif est nommé par le Parlement, et non pas par le suffrage universel. Alors ça, c'est une histoire. Mais quand on est rentré dans une autre histoire, à partir de 1962, qui était d'ailleurs une histoire de 1848, hein. N'oublions pas que l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est la première, c'est celle de 1848. Mais comme ça a été Louis-Napoléon Bonaparte, après, ça a été disqualifié par les Républicains. Mais on est revenu en 1962, et ce symbole, il est incontournable. Il me paraît impensable de le remettre en cause. Mais en revanche, cela montre que la démocratie, ça n'est pas simplement le vote intermittent. Que la démocratie, ça doit être en quelque sorte un exercice permanent. Et la notion même de légitimité le montre bien. Parce que celui qui a été élu parce qu'il a la majorité, il est nécessairement, du même coup, un gouvernant légitime. Il est légitime comme personne, mais son action ne sera légitime que s'il recommence en quelque sorte en permanence la bataille de l'opinion. Et si il ne se laisse pas en quelque sorte enfermer avec suffisance dans son statut d'élu légitime. La démocratie...
L'élection l'oblige plus qu'il ne lui permet.
Exactement. L'élection est un permis de gouverner. Ce permis de gouverner... il ouvre la question de savoir comment va conduire la voiture celui qui a pris le volant.
Je vous propose d'écouter la voix de Georges Vedel, grand constitutionnaliste devant l'Éternel, à propos de la Constitution de 1958. C'est l'extrait d'un colloque à Aix-en-Provence qui s'était tenu en septembre 1988.
Je veux dire ceci, tout au long de nos travaux, une chose m'a frappé, et je la maintiens. C'est que les hommes, quels qu'ils soient, sont prisonniers de leur culture et de leur éducation. On n'y peut rien. Je relevais à quel point il était certain que le général de Gaulle avait été marqué de l'époque où, officier s'intéressant activement à la vie politique, il avait vu fonctionner le régime parlementaire de la Troisième République. Je suis aussi très frappé de la marque que les enseignements que j'ai suivis moi aussi, de Joseph Barthélémy et d'Huez et des juristes constitutionnalistes de l'entre-deux-guerres ont pu exercer sur quelqu'un comme Michel Debré, et probablement aussi sur un certain nombre de ceux qu'il a eu comme collaborateurs. Or, il se passait ceci d'assez curieux, c'est qu'en 1958, la science politique avait, sur le domaine des institutions, subi un renouvellement considérable, et notamment une déclassification des concepts qui ont servi au travail sur la Constitution. Prenons quelques exemples. La définition du législatif et de l'exécutif en termes organiques et non pas en termes fonctionnels. L'interprétation de la séparation des pouvoirs en législatif, exécutif, judiciaire, alors qu'on avait une autre séparation, séparation du pouvoir et de l'opposition, séparation de la société civile, etc. Toute l'analyse structuraliste ou systémiste n'était pas passée par là, mais il y avait une très profonde rénovation des instruments de la pensée politique et de la science politique, et l'on pouvait en trouver des éléments à la fois dans les ouvrages, dans les revues, et je le dirais aussi, dans les travaux de Jean Moulin de cette époque-là, des travaux du club Jean Moulin, qui étaient assez inspirés par ces idées de rénovation. Or, que se passe-t-il ? C'est absolument en marge de cette analyse scientifique, et je pense que personne ne le démentira, que sont entrepris les travaux constitutionnel. Et je constate une chose, c'est qu'ils nous ont conduit à une constitution qui marche.
Nous venons d'entendre l'argumentation de Georges Vedel. Dans la campagne électorale, il a beaucoup été question de la constitution, plutôt d'ailleurs avant le premier tour qu'entre les deux tours. Est-ce que c'est un vrai problème ? Et d'autre part, à l'intérieur de l'argumentation de Georges Vedel, il y a cette idée que la démocratie, elle marche par une discussion entre la société civile et puis ceux qui sont élus grâce à cette constitution. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que le peuple ait plus la parole, selon vous, Pierre Rosanvallon, aujourd'hui ?
Il ne suffit pas de considérer les institutions. Très souvent, les réflexions sur l'amélioration de la démocratie sont des réflexions sur les changements institutionnels.
Alors, ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. Alors, bien sûr, on peut dire, par exemple, qu'un peu plus, ou même beaucoup plus de proportionnel permettrait d'avoir des débats plus vivants à l'Assemblée. Et du coup, que tous les citoyens pourraient se sentir mieux représentés de ce fait même, de l'élargissement du nombre de sensibilités, disons, présentes au Parlement.
Ça suffit pas.
Ça suffit pas. De même que l'on peut dire aussi qu'il faudrait restaurer la fonction parlementaire.
Ça vous suffit... plaidez beaucoup pour que le Parlement puisse avoir un rôle beaucoup plus prépondérant qu'actuellement.
Oui, mais pas seulement le Parlement. C'est là justement la question. Ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les fonctions démocratiques qui sont en cause dans les institutions. Regardons le Parlement. Que veut dire donner plus de pouvoir au Parlement ? Ce n'est pas simplement que le Parlement peut avoir davantage d'initiatives des lois. La fonction du Parlement, c'est aussi une fonction de reddition, de demander des comptes au pouvoir. C'est une fonction d'enquête. C'est une fonction de surveillance et de contrôle. C'est une fonction d'évaluation des pouvoirs.
Donc, si on contre-pouvoir au sein du pouvoir.
La définition du Parlement, c'est d'être en quelque sorte face au pouvoir exécutif, à la fois un allié, mais à la fois un contre-pouvoir. C'est pour ça que d'un certain point de vue, on peut dire que c'est la nature même du rapport entre la majorité et l'opposition. On peut dire que la fonction de l'opposition, c'est d'instruire le procès permanent du pouvoir. C'est de le discuter en permanence, c'est de l'évaluer en permanence.
Oui, mais concrètement, maintenant qu'on a une opposition réduite à une extrême droite et l'écrasement d'une droite institutionnelle, qu'est-ce qu'on fait ?
Voilà la question. C'est que si on pense que toutes ces fonctionnalités démocratiques, toutes ces fonctionnalités qui étaient des fonctionnalités parlementaires autrefois, doivent être exercées aujourd'hui par les parlements tels qu'ils sont, avec les modes d'élection tels qu'ils sont, eh bien, on voit que les parlements, de fait, ils sont là pour soutenir le pouvoir ou pour le critiquer. Donc, soutien ou critique, blanc ou noir. Mais ils ne sont pas là pour toutes ces autres fonctions démocratiques. D'où, je pense, la question essentielle est la suivante. Comment faire vivre autrement ces fonctions de délibération, ces fonctions d'évaluation, ces fonctions de contrôle? Alors, on voit bien toute la discussion qu'il y a eu depuis 2-3 ans dans le pays sur la question de la délibération, le grand débat public, la conférence citoyenne sur le climat. Et là, il y a toute une...
Ça vous a convaincu, Pierre Rosanvallon ?
Ce qui m'a convaincu et ce qui doit être développé, c'est la multiplication de ce type d'expérience. Mais là, on voit une chose très simple. C'est qu'il ne suffit pas, dans le domaine démocratique, de grandes idées générales. Il faut rentrer dans l'ingénierie précise.
La mise en pratique.
La mise en pratique, parce que c'est là que la réalité des choses se joue. Si on dit on fait une grande conférence citoyenne, très bien, mais comment elle est constituée précisément ? Quels vont être ses pouvoirs ? Comment va-t-elle les résultats de son travail ? Comment vont-ils être traités ? Là, il y a eu ce laboratoire qui était la conférence citoyenne pour le climat. Je crois quand on fait le bilan de ce qui s'est passé concrètement, on voit bien qu'il faut améliorer les conditions de publicité des travaux, par exemple. Parce que une convention, c'est 150 personnes qui vont réfléchir intensément ensemble, qui l'ont fait, dans ce cas du climat, pendant plusieurs mois. Et donc, chacune de ces personnes a beaucoup lu, a été confrontée avec d'autres.
Et a réinventé sa propre idée de la démocratie,
mais le problème est comment...
Et les gens sont toujours beaucoup plus intelligents que le pense le pouvoir.
Mais comment communiquer à la société tout entière cela ? 150 personnes ont fait un travail formidable, ont progressé collectivement dans ce groupe. Mais peut-être, et c'était une des difficultés, je pense, qu'ils n'ont pas fait avancer la société comme eux-mêmes, personnellement, ont avancé. Donc vous voyez qu'à la fois, il ne faut pas simplement parler des institutions, mais parler des fonctionnalités, d'une part, qui peut être résumée d'ailleurs par un mot très simple. Et ce mot, c'est Bentham, un grand théoricien anglais du parlementarisme qui l'avait. Il disait, la démocratie, il y a deux organes. il y a la voix et l'œil. La voix, c'est la voix du peuple qu'il y a dans le bulletin de vote. C'est la voix du peuple qu'il y a dans la liberté d'opinion. C'est la liberté de la presse. Il y a la voix du peuple même dans les manifestations, on dirait aujourd'hui. Mais toutes ces manifestations, c'est des modalités de voix du peuple qui sont intermittentes. Alors que l'œil du peuple, lui, il doit être permanent. Il est en quelque sorte le contre-pouvoir permanent. Et c'est cela qu'il s'agit de trouver les conditions d'institutionnalisation aujourd'hui. On le voit bien aussi, prenez ce domaine essentiel qui est celui de l'évaluation des politiques publiques. On prend des décisions, mais après, qu'est-ce que ça devient? Pourquoi ça n'a pas marché, par exemple? Si on ne fait pas d'évaluation des politiques publiques, les décisions qu'on prend ne servent à rien. Regardez tous les débats qu'il y a sur les conditions d'affectation, par exemple, des collégiens dans les lycées. C'est un grand sujet de débat aujourd'hui. Mais on va mettre en place une nouvelle procédure. Mais si on ne fait pas très attention à voir ensuite quels ont été les problèmes pratiques rencontrés, comment ça a marché ou comment ça a dysfonctionné, eh bien à ce moment-là, on ne fait pas progresser les politiques publiques. Donc, il faut faire vivre tout ce que j'appelle ces fonctionnalités démocratiques. Et donc, ça élargit notre champ de vision de la démocratie. Améliorer la démocratie, ça n'est pas simplement produire des nouvelles constitutions. C'est trouver même s'il y a des changements institutionnels à faire, très certainement. Mais c'est donner les moyens qui ne sont pas simplement des moyens constitutionnels pour développer ces fonctionnalités. Par exemple, démultiplier les instituts d'évaluation des politiques publiques. Par exemple, démultiplier ces expérimentations de conférences citoyennes. Alors qu'aujourd'hui, on a le sentiment que, grosso modo, il y a deux recettes dont on attend qu'elles soient les recettes miraculeuses. D'un côté, la proportionnelle, et de l'autre côté, le référendum citoyen. Certainement que la proportionnelle aurait des vertus, certainement que le référendum peut avoir des vertus dans certains cas, mais comme il a une certaine solennité, il est irréversible, le référendum, d'un certain point de vue, on ne peut pas y recourir en permanence. Donc, il faut trouver autre chose, je pourrais dire des moyens autres que ceux simplement de la proportionnelle et du référendum.
Nous avons bien compris, en entendant le discours d'Emmanuel Macron hier soir, qu'il comprenait qu'il n'y avait pas eu forcément un vote d'adhésion et que cette élection n'est pas une élection glorieuse et qu'il entendait inclure les votes de celles et de ceux qui ne pensaient pas comme lui. Est-ce que cela veut dire, selon vous, Pierre Rosanvallon, qu'il a compris, notre président de la République, qu'il lui fallait changer de définition de pratique de pouvoir? Parce que on a l'impression, peut-être est-ce utopique ce que je vais vous dire, mais qu'il est finalement sommé par les événements de réinventer une nouvelle pratique de la démocratie.
Oui, parce que la démocratie n'est pas simplement un régime, la démocratie, elle est une pratique du pouvoir. Elle est une pratique quotidienne du pouvoir. Et dans cette pratique quotidienne du pouvoir, il y a aussi une moralité. Et cette moralité, c'est celle de ne pas camper sur son camp, un camp qui aujourd'hui est de plus en plus étroit, disons, mais de regarder de façon plus large les besoins et les attentes de la société. Il y a un chiffre qui est très important à considérer. Ce sont les chiffres de premier tour. Au premier tour, auparavant, eh bien, le RPR, les socialistes, ils faisaient 30, 35%, voire 38%. Alors qu'aujourd'hui, au premier tour, on voit des chiffres qui sont presque toujours inférieurs à 30%. Donc cela montre que comme on gouverne avec, je dirais, la majorité qu'on a acquise au deuxième tour, eh bien, il faut avoir une philosophie du pouvoir qui soit apporte une réponse aux attentes de ceux qui ont été la majorité du deuxième tour et pas simplement les électeurs du premier tour.
Est-ce le mot même de politique qui est en train d'évoluer? Est-ce que ce mot désigne la même chose qu'il y a même 5 ans ou 10 ans? En tout cas, je vous propose d'écouter un philosophe du politique que vous connaissez bien. Il s'appelait Claude Lefort. Il va analyser le mot politique. C'est une archive INA du 28 octobre 1994 et c'est au micro de Pascal Werner.
Le mot désigne la constitution même de la société. Quand je dis la constitution, je n'emploie pas ce terme dans son sens juridique. je veux dire, les principes fondamentaux, les principes générateurs, les principes qui structurent une société, qui permettent de la distinguer d'une autre. Un certain ordonnancement de la vie sociale. On peut dire que nombre de problèmes qui ne sont pas ordinairement appelés politiques ont en réalité une signification politique du fait qu'ils s'insèrent dans un tel et qu'ils reçoivent une interprétation dans un type de société ou un autre. Prenons la démocratie libérale. Cette démocratie libérale, on dira que dans cette démocratie libérale, il y a un ensemble, il y a une part d'institutions et une part d'activités qui peuvent être localisées comme politiques. Autrement dit, il y a du politique et il y a du non-politique. Le non-politique, c'est l'économique, c'est le juridique, c'est le religieux, c'est le pédagogique, c'est le scientifique. Bon. Or, d'une certaine façon, cette différenciation entre ce qui est de l'ordre de la politique et ce qui n'est pas politique, cette différenciation, elle a même une signification politique. Elle a une histoire. Et en tant que tel, c'est un trait distinctif, elle donne son trait distinctif à la démocratie libérale. Ni dans des sociétés anciennes, en Europe des sociétés d'ancien régime, cette distinction n'était accusée et n'était légitimée comme elle l'est dans la démocratie libérale. Et nous voyons que pour une part, les régimes totalitaires, quelles que soient leurs variantes, sont des régimes qui essayent d'effacer ces distinctions, et qui font en sorte que tout, d'une certaine manière, tout est pénétré par la politique.
Tout est pénétré par la politique, disait donc Claude Lefort en 94. Aujourd'hui, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, tout est-il politique ?
Je crois que l'idée fondamentale de Claude Lefort, c'est de dire, attention, la politique, ça n'est pas simplement le domaine, appelait-elle, le domaine des partis politiques, le domaine des institutions. La politique, c'est tout ce qui concerne la production de la société, l'institution de la vie commune.
Chacun de nous peut avoir une action politique.
Exactement. À ce moment-là, la politique, ça n'est pas simplement ceux qui sont dans les institutions directement politiques, comme les partis, mais tous ceux qui sont concernés par la production de la société, son organisation. Et aujourd'hui, on pourrait dire une définition non pas simplement fonctionnelle de la politique, mais une dimension substantielle de la politique. Et aujourd'hui, cette dimension substantielle est d'autant plus importante que la définition fonctionnelle, les partis sont en train de s'étioler. La vie démocratique, si elle est simplement définie par la vie des partis, leur fonctionnement, alors là, c'est la dérilection la plus totale.
Mais c'est pas du tout ce qui est en train de se passer années en
justement,
France.
Justement, les partis déclinent et pourtant,
La pratique démocratique augmente.
Il y a une attente, en tout cas, de démocratie substantielle qui est de plus en plus grande. Une attente de faire entendre sa voix. Une attente de participer au débat public. Une attente qui n'est pas simplement de l'ordre de la démocratie directe, mais de la contribution au fonctionnement de la société, à ses décisions. Et avant, c'était une sphère particulière, une sphère réservée, une sphère séparée, celle des partis. Or, aujourd'hui, les partis sont exsangues. Et pourquoi ils sont exsangues ? Ben, ils sont exsangues, justement, pour deux raisons. La première raison, c'est que les partis étaient des machines et qui fonctionnaient en étant tournées vers elles-mêmes. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle il y a une demande plus grande d'incarnation. Donc on peut dire que les personnalités ont pris la place des partis. Et aujourd'hui, si on regarde cette fameuse tripartition qui organise l'opinion en France aujourd'hui, eh bien ça n'est pas des partis. On pourrait dire, c'est les followers de Macron, ce sont les followers de Marine Le Pen, et ce sont les followers de Jean-Luc Mélenchon. Mais avant, qu'est-ce que c'était qu'un parti politique ? Un parti politique, c'était des citoyens qui étaient nombreux. Le Parti Socialiste et les RPR a eu des centaines de milliers de membres. Le Parti Communiste a eu près de 400 000 membres à un moment, qui discutaient ensemble, qui élaboraient des programmes. Donc il y avait tout ce monde intermédiaire derrière les partis, qui était tout un monde militant, un monde de la discussion, un monde de la réflexion, et qui jouait son rôle dans la vie démocratique. Au Parti Socialiste, par exemple, eh bien, c'était dans les sections que l'on votait pour savoir qui allait être candidat aux élections. Aujourd'hui, ces partis-là, aucune des trois personnalités que j'ai nommées n'a cherché à en construire un. Il n'y a pas de congrès des insoumis qui décide ce qu'il faut faire. Parfois, il y a une espèce d'appel au peuple du tribun qui dirige le mouvement. Et c'est la même chose chez Emmanuel Macron. La République En Marche, ça n'est pas un groupe délibérant et qui prend des décisions. Ce sont les soutiens. C'est pour ça que j'emploie ce mot, les followers. Donc, à ce moment-là, la vie démocratique dans les partis, elle n'existe plus. C'est simplement le face-à-face entre ces différents leaders et la société. Donc, il faut qu'on ait autre chose. Il faut qu'on ait la vie démocratique doit se définir par cette intervention des citoyens qui déborde en quelque sorte simplement ce face-à-face entre un leader et la société.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Pierre Rosanvallon pour notre plus grand bonheur, Bernard Lavilliers.
Une chanson que je chantais, y a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur, j'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Lava bocañoso, penabi colonioso. Il vivait avec des mots, passés sous le manteau, qui brillaient comme des couteaux. Il jouait de la dérision, comme des armes de précision. Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur. Musique parfois a des accords majeurs qui font rire les enfants mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Il y a du sang sur mon piano, il y a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs qui font grincer les dents du grand libérateur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Une chanson qui nous ressemble. C'est la voix de Mandela, le tempo d'Octofella. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quel couloir. La musique est un cri qui vient de l'intérieur.
On a pas montagne, son pénami colonioso.
La musique est un cri qui vient de l'intérieur.
Je vous réinvite demain soir. Êtes-vous libre, Pierre Rosanvallon? Parce que figurez-vous que Bernard Lavilliers est en direct à la radio à partir de 20h.
Ah, très bien.
Pourquoi vous avez choisi Lavilliers?
Je pense que Lavilliers est un chanteur qui a une certaine dimension politique, disons. Bernard Lavilliers est en même temps un poète. Et qu'est-ce qu'un poète? C'est quelqu'un avec lequel les mots agrandissent la réalité, la font rebondir, la font vibrer autrement. Et je crois que nous avons besoin de ça. C'est de ne pas simplement être enfermé dans le concept, mais de comprendre que si on veut faire aller de pair la vie et les idées, il faut cette vibration entre les deux. Et la poésie, comme la chanson, comme la littérature, c'est ce qui fait établit ce rapport de vibration, ce rapport de rebond, ce rapport d'élargissement qui nous permet de comprendre qu'au fond, ce dont nous avons envie, ce que nous voulons vivre, est toujours plus large et plus que les mots étroits avec lesquels nous parlons ordinairement.
Beaucoup de questions donc après l'élection d'Emmanuel Macron, des questions d'usure démocratique. Vous soulignez que cette usure ne cesse d'augmenter. Nous avons eu l'impression, encore une fois, peut-être je me trompe, qu'Emmanuel Macron lui-même en prend conscience. Mais cet Emmanuel Macron qui a été élu hier soir à 20h n'est pas le même que celui d'il y a 5 ans qui nous promettait une disruption. Tout à l'heure, vous avez parlé de followers à propos des partis politiques. Et vous avez parlé donc d'Emmanuel Macron comme ayant obtenu le plus de followers possible. Comment faire en sorte que représentation de la démocratie ne rime pas avec incarnation?
Il y a forcément une dimension d'incarnation dans la démocratie. Une dimension d'incarnation parce que nous sommes à l'âge des médias. Et après tout, vous savez, la démocratie a changé de nature le jour où la photographie s'est développée. C'est une chose qu'on a beaucoup étudiée. Les historiens ont étudié, c'est de montrer que à partir du moment où la photographie existait, il y avait un visage que l'on pouvait regarder. Avant, c'était toujours abstrait. Le souverain, le président, c'était un nom, c'était un mot. Mais avec un constat, c'est que pendant très longtemps, les photographies de personnes qui étaient des candidats officiels, c'était des gens absolument très sérieux qui ne souriaient pas. Et il y a eu un changement, qui est un changement dans la démocratie, c'est le jour où les gens ont commencé à publier des photos d'eux-mêmes qui souriaient. Ce qui voulait dire qu'ils n'étaient pas simplement ils symbolisaient pas simplement une fonction, mais qu'ils étaient dans un rapport avec autrui. Et cette attente d'un rapport avec le pouvoir, il est une dimension essentielle de la politique aujourd'hui, et c'est à cela que répond le besoin d'incarnation. Mais bien sûr, on ne peut pas en rester là. Et ne pas en rester là, ça veut dire que l'incarnation, c'est une chose, mais l'autre dimension essentielle, c'est celle de l'écoute permanente. Et là,
le président a cité le mot de bienveillance hier soir.
Oui, mais on peut dire que c'est là, il doit devenir un...
Il vous a peut-être lu, hein, Pierre Rosanvallon, et votre dernier ouvrage où vous réhabilitez le rôle des émotions à l'intérieur du fonctionnement de notre société, du vivre ensemble.
En tout cas, là, je dirais que s'il est devenu un grand professionnel de la diplomatie, s'il est devenu un grand professionnel de la gestion des courants politiques, de la gestion des carrières, il est encore un étudiant, pas encore très avancé en écoute de la société, que s'il fallait lui fixer un programme de progression personnelle dans les années à venir, ce serait sur ce terrain de l'écoute, sur ce terrain de l'empathie et sur ce terrain de la compréhension et de la connaissance, non pas simplement abstraite à travers des chiffres, mais de la compréhension sensible de ce que vivent les hommes et les femmes dans ce pays.
Alors, quelques chiffres tout de même. Entre 2010 et 2020, les 500 plus grandes fortunes françaises ont vu leur montant tripler, passant de 210 à 730 milliards d'euros, soit de 10% à 30% du PIB. Ça, ce sont des chiffres. Le président que vous avez qualifié avant cette élection d'hier soir d'être au centre de l'échiquier de droite, va-t-il continuer à l'être dans sa pratique économique du pouvoir?
Bien, je crois que la politique, elle est faite à la fois de politique et de symboles. Or, effectivement, beaucoup de citoyens attendent une réponse pratique, mais au moins symbolique forte en matière de redistribution des richesses. Car effectivement, c'était documenté de multiples façons, les inégalités, pas simplement de revenus, mais de patrimoine. On le voit avec récemment dans l'actualité, la publication de montants très importants, de stock options pour tel ou tel grand patron, contraste singulièrement avec le piétinement de tout un ensemble d'autres rémunérations et de patrimoine qui, au contraire, là, sont marqués par une hausse des prix qui est pénalisante.
Mais avec la suppression de l'ISF dans le premier mandat, la suppression de l'APL, Emmanuel Macron, effectivement, signe un contrat politique avec le peuple qui le situe quand même au centre de la droite. Ou...
bien sûr, mais... Moi, je pense que Emmanuel Macron d'il y a 5 ans était un personnage qui a d'abord publié un livre, même s'il ne faut pas se fier simplement au titre, qui avait pour titre « Disruption », qui se présentait comme étant à la fois et de droite et de gauche. Et aujourd'hui, il est certain qu'il a été le reconstructeur de la droite et que le ralliement de Sarkozy en est le témoignage ultime, mais que son électorat qui lui permet aujourd'hui de gouverner n'est pas simplement cet électorat d'une droite recomposée. Il a eu parmi ses électeurs tout un ensemble d'électeurs qui viennent de la gauche, et aussi pas simplement des électeurs, mais aussi toute une société qui attend, une société qui est plus en difficulté. Et vouloir gouverner, c'est aussi vouloir l'unité de la société, vouloir davantage de paix sociale. Et pour avoir cette paix, il faut qu'il y ait un sentiment qu'une certaine forme de justice prend chair. Et qu'il y a à la fois des politiques de justice et des gestes symboliques forts. Donc là, il sera attendu sur ce terrain. Et sinon, on le sait, ce qui se passera, c'est que ça n'est pas dans les débats parlementaires, mais c'est hélas dans la rue et par des éruptions de formes de violence que pourront se remanifester, peut-être à un niveau bien supérieur à celui des gilets jaunes, tout un ensemble de colère et de frustration si elles ne trouvent pas des modalités de réponse et qui font face, c'est-à-dire si elles font face à ce qui apparaît comme un mur d'incompréhension.
Je voudrais vous proposer d'écouter la voix d'un sociologue, philosophe, qui a beaucoup écrit à propos des crises de la démocratie. Vous le connaissez bien aussi, il s'appelait André Gors. Il parle d'une crise qui arrive, c'est une archive INA de 2006. Écoutez.
Je crois personnellement que dans tout ce qui se passe au niveau technologique, économique, s'annonce la montée d'une crise qui fait que ou bien tout sombrera dans la barbarie complète, ou tout changera totalement, dans un sens positif. Et qu'il n'y a pas beaucoup de milieu entre les deux. Ou bien nous deviendrons un monde qui ressemble à ce qu'est actuellement l'Afrique, avec des bandes armées qui s'entretuent. Un monde à la Mad Max, des bandes armées qui s'entretuent pour pas grand-chose, pour se partager des richesses que personne ne produit plus, pour piller, etc., etc. Ça, c'est une chose qui, même autour de nous, s'indique, et bien sûr, s'indique beaucoup plus fortement dans le Sud. Donc nous pouvons dériver vers ça. Mais aussi, nous pouvons dériver vers ce qui se construit dans les marges. Par exemple, au Brésil, qui sont un nouveau type de coopérative de mise en commun de tout ce qui est produit, et de refus de monétariser les productions, de les commercialiser. néolibéralisme en tant qu'idéologie dominante a du plomb dans l'aile, et même l'économie marchande. L'idée de gratuité fait son chemin, même de façon parfois inattendue, chez des gens inattendus. Vous avez Patrick Vivray qui développe un discours que je considère anti-économique, c'est-à-dire qui demande l'introduction d'une économie complètement différente de celle qui règne pour tenir compte de ce qui n'est pas comptabilisable, calculable, ni expressible en prix et en argent, et qui est la richesse première et la richesse fondamentale. De tout ce qui est humain n'est pas traductible en argent, ni tout ce qui est, relève des cycles naturels. Et de mon point de vue, ce passage pourra avoir lieu quand ce système économique s'effondrera. Et je crois fermement à son effondrement.
C'est assez incroyable, cette archive qui date de 2006 de ce très grand penseur, aujourd'hui hélas un peu trop méconnu, Pierre Rosanvallon. Mais on voulait terminer cette émission pour savoir et vous demander si vous pensiez qu'André Gorz était un prophète ou un visionnaire.
Je pense que André Gorz, que nous venons d'entendre, et Patrick Vivray, qu'il cite, appellent tous les deux, à juste titre, à une autre compréhension de ce qu'est l'économie et de ce qu'est la richesse. Et en même temps, il nous dit une chose très importante, c'est que nous devons avoir conscience de la précarité et de la fragilité d'un certain nombre de choses qui nous semblent aujourd'hui des acquis, et que le retour de la guerre aujourd'hui en Europe, que le retour de formes dans le monde, de formes d'ensauvagement, de brutalité, de bandes armées qui se développent sur la base d'implosion d'un certain nombre d'États, est une réalité qui peut revenir, en tout cas, qui revient déjà dans un certain nombre de sociétés dans le monde. Et puis une deuxième chose très importante, c'est que dans tout ce qu'a dit André Gorz dans cet extrait et en général, c'était de dire il faut penser au long terme. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le long terme, c'est demain matin. Pendant très longtemps, quand on parlait des questions d'écologie, on disait, voilà, il faut penser au long terme, voilà ce qui va se passer dans 30 ans, ce qui peut se passer dans 50 ans. C'était des avertissements pour le futur. Aujourd'hui, le long terme, c'est demain matin. Et c'est pour cela que la notion même d'urgence écologique est essentielle. Car l'urgence écologique veut dire que se battre pour le long terme n'est pas pour le long terme, c'est se battre pour demain matin.
Demain matin, l'intensité du présent. Pierre Rosanvallon, dans votre dernier ouvrage, vous nous avez expliqué de manière ô combien convaincante que les émotions structurent finalement à présent autant les conflits sociaux que les faits objectifs. Vous avez catégorisé ces émotions. La troisième, c'était l'incertitude. Emmanuel Macron a-t-il de l'oxygène et un espace pour calmer nos incertitudes ?
Eh bien, pour calmer nos incertitudes, il ne faut pas simplement regarder des tableaux comptables, regarder des statistiques. Il faut comprendre ce que sont des inquiétudes, ce que sont justement des colères. Et pour cela, je dirais, rentrer à l'intérieur des sociétés. Et la représentation dont nous avons besoin, c'est pas simplement la représentation de nos intérêts, c'est pas simplement la représentation de nos idéologies, c'est tout simplement la représentation de la réalité. Vous savez, représenter, c'est un double sens. Représenter, ça veut dire d'abord avoir un délégué, quelqu'un qui parle pour vous, votre porte-parole, votre élu. Mais être représenté veut dire aussi que ce qu'on vit est mis sur la table, que les réalités que l'on vive, elles sont prises en compte, qu'on en parle, qu'elles sont considérées comme importantes. C'est cela, être représenté aussi. Et cela, bien sûr, c'est une fonction du politique, mais pas simplement du politique. C'est aussi le travail de romanciers, de cinéastes, d'actions militantes, de terrain, de reportages sur qui sont faites à la radio, à la télévision, dans des journaux, sur des réalités mal prises en compte, ce qu'on appelle, au fond, rendre les profondeurs de la société, les rendre lisibles et visibles pour tous. Ça, c'est une fonction démocratique par excellence, me semble-t-il.
Merci infiniment, Pierre Rosanvallon.
portail d'Avrobus, maître de chien, desquels j'ai hérité de tout et de rien. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, de rongeurs de frein, de tout sexe. Seigneur de château renversé, cher à Dédale, desquels j'ai hérité de tout et que dalle. Que dalle, tout, 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 que dalle, tout, que dalle, tout. Je viens d'une longue lignée de zéro, de un, sentimentaux, sanguin, charmeur. Serpent, figure locale, desquels j'ai hérité de tout, que dalle, tout, tout, que dalle, tout, 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 que dalle, tout, que dalle, tout, 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 que dalle.
Merci en tout cas Pierre-Rosan Vallon, merci et je conseille fortement de lire ou de relire votre dernier ouvrage « Les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français » aux éditions du Seuil. Nous venons d'entendre Bertrand Belin avec une de ses dernières chansons, « Que dalle tout ». Merci à Clément Vuillet qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie-Clément, Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Bien sûr, Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et demain, en lieu et en place de l'heure bleue, je vous réinvite, Pierre, il y a le concert de Bernard Lavillier avec l'orchestre symphonique de la Maison de la Radio présenté par Rebecca Manzoni.